Parlons d'abord de ce bonbon dont sont victimes des jeunes. Je ne sais pas si vous avez vu la photo là, dans l'article de Jonathan Tremblay aujourd'hui dans le journal. Elle s'appelle Alissa. Elle est couchée sur un lit dans un état végétatif parce qu'elle a consommé ses bonbons. Vous savez, c'est une drogue en fait qui ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le bonbon rectangulaire qu'on consomme avec un petit machin en plastique. Là, on fait basculer vers l'arrière la tête d'une figurine. C'est un bonbon rectangulaire là, qui s'appelle le PEZ, P-E-Z. Ben, c'est ça, cette drogue-là. On l'appelle sur le marché le PEZ. On va aller rejoindre Jessica Turmel, qui est psychoéducatrice pour l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Bonjour, Jessica.
Bonjour.
Est-ce que ça fait longtemps qu'elle circule, cette drogue?
En fait, globalement, ça fait longtemps, là, ça fait près de 20-25 ans qu'on voit circuler des comprimés de toutes sortes, en fait, de toutes sortes de couleurs, de logos, même de formes différentes, des petites fraises, des petits diamants. Donc, on voit la circulation de drogues comme ça, dont la qualité est vraiment doutable. Mais pour ce qui est là, du bonbon PEZ, on en entend parler là, depuis quelques temps seulement. Et déjà, là, on commence à entendre là, des histoires de surdoses, souvent non mortelles, mais parfois mortelles, malheureusement.
Qu'est-ce qui se passe quand on dit surdose? C'est quoi? Est-ce que les jeunes tombent en arrêt cardio-respiratoire? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, en fait, ben, dans la consommation de drogue, on a habituellement affaire à deux types de surdoses. Il y a les surdoses où la personne va faire une dépression respiratoire, donc son système va ralentir, son rythme cardiaque va diminuer, sa respiration aussi, jusqu'à cesser de battre. Donc la personne va cesser de respirer, manquer d'air au cerveau. C'est ce qui explique parfois que les personnes sont plongées dans un coma, un état végétatif, et là on doit prendre des décisions. Il existe un autre type de surdose où la personne a pris des stimulants, où là c'est un peu l'inverse, le cœur va s'emballer, se mettre à battre de façon irrégulière, faire de l'arythmie, et ça peut mener aussi à des arrêts cardiaques. Quand on parle de la crise du fentanyl, par exemple, oui. Et quand on parle de dépresseurs, là on parle vraiment là, de personnes qui s'endorment et ne se réveillent jamais.
Dans le cas du PEZ, est-ce que c'est une dépression respiratoire ou c'est le cœur qui s'emballe? Est-ce qu'on le sait?
On sait qu'il y avait différentes substances dans l'organisme, par exemple, de la jeune fille. Il y avait vraiment le mélange des deux. Donc, on avait retrouvé, entre autres, là, de la méthamphétamine, qui est un stimulant majeur, donc qui fait emballer le cœur. Et il y avait de l'éthysolam aussi, qui crée des dépressions respiratoires. Donc, possiblement, un mélange explosif de deux substances aux effets un peu contraires, qui a fait en sorte là, que le cœur... n'a pas été capable de gérer cette situation. Je ne sais pas exactement si c'est la dépression respiratoire là, qui a été qui a causé
la mort. Enfin, pas. Ben, la mort dans un cas, hein, parce qu'il y en a un qui est décédé, Frédéric Jean, 19 ans. Lui, il est mort en septembre. Et il y a Alissa là, qu'on voit là, allongée dans son lit à l'hôpital, là, qui est dans le coma présentement là, et qui vit grâce à un respirateur artificiel là, depuis sa surdose. Avez-vous l'impression qu'il y en a plus qu'avant?
Les chiffres augmentent. Ça augmente et on ne connaît pas, en fait, on ne compile pas la quantité de surdoses qui sont non mortelles, mais pour échanger là, avec les gens du terrain dans l'ensemble du Québec, c'est une situation qu'on voit qui est qui augmente en flèche, pas seulement en raison du fentanyl, mais aussi en raison d'autres substances comme l'éthysolam. En fait, c'est un problème majeur de qualité des substances qui se retrouvent sur le marché noir. Ça grimpe en flèche. Il y a des centaines, des milliers de victimes dans l'ensemble du Canada. Donc oui, c'est une situation très sérieuse et il est vraiment temps d'agir. Là, on parle d'une question de vie ou de mort.
Problème de qualité récent, ça? Ça a empiré récemment, ce problème de qualité?
Ce qu'on voit présentement, en fait, on a toujours eu un problème de qualité. Depuis quelques années, l'arrivée du fentanyl contrefait est devenu un très gros enjeu pour nous. Mais là, avec la COVID, avec la pandémie, on a aussi la problématique de fermeture des douanes qui fait en sorte que les trafiquants de drogue ont de la difficulté à importer leurs substances habituelles et doivent faire avec ce qu'ils trouvent ici au Québec. Donc, détourner des médicaments, créer des substances de contrefaçon, puis c'est ça qui se retrouve dans les mains des consommateurs. Donc, ils ne sont pas conscients, en fait, de ce qu'ils consomment. Et on le voit, là, pour avoir réalisé des échanges avec les intervenants, c'est un phénomène qu'on retrouve partout au Québec, la qualité des substances qui se dégradent, oui.
C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Jessica Turmel, psychoéducatrice, dis-je bien, pour l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et là, on va aller retrouver Isabelle. Isabelle, c'est la maman de Sarah-Jeanne, qui est décédée d'une surdose à 24 ans. Isabelle est la porte-parole de l'organisme Moms Stop the Harm, dont je traduirais « Maman, cessez le mal ». Bonjour Isabelle.
Bonjour M. Rainville.
Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé avec, avec Sarah-Jeanne.
Mais Sarah-Jeanne est décédée le 17 mai 2019. Elle a été retrouvée dans sa chambre des résidences de l'Université d'Ottawa, sans vie. Ce qui est apparu au rapport du coroner, c'était une surdose provoquée par un mélange de benzodiazépines, dont les activants, ça c'était sa propre prescription qu'elle avait pour son trouble d'anxiété, et une héroïne qui avait été contaminée au fentanyl, qui a été retrouvée dans sa chambre. Donc moi, au lendemain de son décès, j'ai décidé, moi, que je vivrais mon deuil plus dans l'action. On m'a rapidement mis en contact avec ce regroupement de femmes, essentiellement des femmes, mais on a aussi des papas dans l'organisation. Une organisation qui a été fondée en 2016 par trois dames de la Colombie-Britannique et de l'Alberta qui avaient toutes perdu leur fils de surdose, donc vraiment au tout début de la crise des surdoses dans l'ouest du Canada.
D'accord.
Et moi, j'ai accepté d'être représentante pour le Québec. Et là, on a eu, avec la Journée internationale des surdoses, un petit peu de publicité. On a formé un groupe Facebook francophone pour les mamans et les papas ici du Québec.
Comment vous l'appelez en français? Comment vous l'appelez?
Ben, c'est groupe francophone. Groupe francophone MSTH pour Mom Stop the Harm, c'est un groupe privé maintenant.
Très bien.
Mais je dois vous avouer que j'ai été submergée, envahie, je pense un petit peu déstabilisée par le nombre de personnes qui se sont joints au groupe, qui racontent leur histoire, dont des parents qui ont perdu un enfant ou des parents qui vivent avec un enfant qui est avec un problème, qui a un problème de dépendance aux drogues. Moi, je vous dirais, ma mission, c'est un petit peu de faire de l'éducation puis de un peu rassurer aussi les parents du mieux qu'on peut, parce que c'est difficile de faire un deuil quand on a perdu un enfant d'une cause qui pourrait être qui ne devrait même pas exister, dans le sens où,
oui,
comme Jessica expliquait tout à l'heure, la toxicité des drogues fait en sorte que la personne qui consomme ne sait pas toujours ce qu'il y a dans sa drogue,
oui,
et ça peut être fatal. Ma fille était très consciente de ces risques-là.
Elle le savait? Elle savait?
Ben, oui. Les risques, oui, elle les connaissait. Par exemple, sa trousse de naloxone, elle l'avait, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle consomme seule, mais je crois vraiment qu'elle a... c'est la stigmatisation entourant la dépendance qui empêche souvent une personne d'aller demander de l'aide. Et je le vois aussi, il y a des parents qui ont peur d'en parler parce qu'on stigmatise la personne. Puis moi, mon discours que je tiens depuis tout début, c'est que la dépendance, ça ne fait aucune discrimination. Vous voyez, ma fille était étudiante à l'Université d'Ottawa. C'est une fille intelligente, elle était impliquée, elle militait avec Amnesty International, avec des groupes comme Greenpeace. Elle faisait un programme en droit et développement international. Donc, les questions des réfugiés, ça l'intéressait. Les questions autochtones au Canada, ça l'intéressait. C'est une fille qui était allumée, mais qui avait un problème de dépendance.
Comment ça s'était développé, son problème de dépendance, Isabelle?
Ben, au fur et à mesure, tu sais, on a toujours, il y a l'influence au niveau des jeunes qui vont peut-être consommer avec des amis. Sarah-Jeanne, trouble anxieux aussi, et je dis pas, tu sais, que c'est ça qui a mené à sa dépendance, mais vous savez, la dépendance, là, on sait pas si on va accrocher ou non, hein. Il y a des gens qui consomment des drogues puis seront jamais dépendants. Mais on ne sait pas si on va être dépendant ou non d'une drogue. Et moi, j'explique toujours que la dépendance, là, c'est comme vous et moi, on est pilote d'un avion, on a notre plan de vol, on sait où on s'en va, on peut prendre des risques, mais des risques calculés. La dépendance, c'est le terroriste qui fait éruption dans la cabine et qui prend le contrôle. Donc, vous imaginez, de se sortir de la dépendance, c'est extrêmement difficile. Et moi, le message que je veux faire passer aussi, c'est ben les parents, il faut qu'on soit là pour, il faut qu'on accepte, dans le sens où il faut qu'on accueille notre enfant, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le repousser, il faut laisser les portes ouvertes. Mmh. Le jour où il sera prêt ou elle sera prête à peut-être entamer un programme de désintox, oui, on sera là. Et c'est d'être équipé. Et présentement, je vous dirais, il y a beaucoup de parents qui me font part, ben c'est un peu les portes tournantes dans le système de santé. Il y a encore du gros travail à faire au niveau de notre système de santé pour que les personnes qui sont dépendantes ne soient pas stigmatisées, de un, et qu'ils reçoivent les soins dont elles ont droit. C'est une maladie.
D'accord.
Et ça, il faut que ça soit vraiment appris. Il ne faut pas que, par exemple, les troubles de santé mentale soient individualisés ou traités en silo et que la dépendance soit traitée en silo. Elle aussi, il faut que ça soit pris dans une équipe multidisciplinaire.
D'accord.
Qui traite vraiment tous les aspects.
Isabelle Fortier, maman de Sarah-Jeanne, donc, qui est décédée d'une surdose à 24 ans, qui est maintenant porte-parole du groupe francophone MSTH. Moms Stop the Harm. Bon courage, Isabelle. Merci beaucoup.
Merci, M. Dainville.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, qu'est-ce que c'est que cette substance? De quoi sont-ils décédés? Enfin, de quoi Frédéric Jean est-il décédé? Alissa, elle n'est pas encore décédée, mais sa mère doit décider, si elle débranche ou pas l'appareil qui tient sa fille en vie, imaginez-vous. Alors, ce qui a été rapporté là dans le papier de Jonathan Tremblay, elle aurait ingéré deux comprimés d'une substance qui s'apparente au Xanax, médicament de la famille des benzodiazépines et de la méthamphétamine. Mais ces bonbons-là, là, donc, qui ressemblent à ces drogues, qui ressemblent à des bonbons, ce que je comprends, c'est que ça peut être différentes drogues. Ils prennent des formes de bonbons, mais ça peut être différentes drogues. Et c'est là qu'est le danger. Tu ne sais jamais d'une fois à l'autre ce que tu consommes. OK, bon courage. Après la pause, on parle à cette citoyenne qui nous a contactés et qui nous a parlé d'une employée de Poste Canada qui devrait, je pense, congédier, qui devrait être congédiée, mais je vais vous laisser écouter son histoire puis vous jugerez par vous-même.